RFI, 1h à Paris, minuit à Londres, il est 23h temps, 23h en temps universel. L'heure d'un nouveau journal avec vous, Arthur Ponchelet. Bonsoir Arthur.
Bonsoir Nemo, bonsoir à tous. À la une de ce journal, la campagne pour les élections législatives en France. On connaît désormais tous les candidats pour le second tour, avec de nombreux désistements pour faire barrage au Rassemblement national. On fait le point dès le début de ce journal. Au Royaume-Uni, les élections générales, c'est demain jeudi. Les conservateurs au pouvoir depuis 14 ans s'attendent à une défaite historique. Parole d'électeurs à suivre. Dans ce journal également, nous irons en Inde où un mouvement de foule a fait au moins 120 morts ce mardi. Et puis direction Cuba, le gouvernement enchaîne les mesures de restriction budgétaire et parle même d'économie de guerre. Le temps des tractations est fini en France. Depuis 18h, on connaît les candidats pour le second tour des élections législatives. Plus de 200 candidats arrivés en troisième position et qualifiés pour des seconds tours se sont retirés. Objectif, empêcher le Rassemblement national d'obtenir une majorité absolue. Mais Raphaël Delvolvé, le but de ce front républicain peut-il être atteint ?
Ça n'est que théorique, mais Jordan Bardella s'éloignerait de Matignon, car la grande conséquence de ces désistements en cascade, c'est l'effondrement du nombre de triangulaires. Il y en avait plus de 300 au soir du premier tour. Les candidats, désormais seuls face à l'extrême droite, doivent en principe bénéficier du report de voix. Et ce seront les électeurs de gauche qui seront les arbitres des nombreux duels, car majoritairement, des candidats Nouveau Front Populaire se retirent, plus de 100. Le camp présidentiel fait quant à lui le choix de s'effacer dans plus de 80 cas, impossible toutefois de savoir si ce barrage fera effet. Rien n'indique qu'un électeur du camp présidentiel vote automatiquement au second tour pour un candidat de gauche et inversement. Il y a de nombreuses consignes de vote et pas toujours claires depuis 48 heures et elles ne sont de toute façon pas toujours suivies. Sans oublier une donne cruciale, la participation, impossible à prédire dans cette configuration inédite. Verdict donc dimanche dans les urnes.
Les législatives en France, c'est aussi un duel à distance entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. La présidente du Rassemblement national a accusé ce mardi le chef de l'État de tenter un coup d'État administratif. Au cœur des tensions, plusieurs nominations ces derniers jours à des postes clés de l'administration. Réponse de l'Élysée, être en responsabilité suppose du sang-froid et de la mesure. Ces nominations sont indépendantes des mouvements politiques traversés par nos institutions. Rendez-vous donc dimanche soir pour les résultats des élections en France. D'ici là, on connaîtra ceux des élections générales au Royaume-Uni. Les Britanniques votent ce jeudi. Selon les sondages, le parti du Premier ministre Rishi Sunak devrait laisser la direction du pays à la gauche du Labour. Après 14 ans de règne, les Tories ont beaucoup déçu, jusque dans leur fief du Sud. Exemple à Woking, à une trentaine de kilomètres de Londres, où notre envoyé spécial Julien Chavanne a rencontré des électeurs qui ne demandent que du changement à la tête du pays.
Difficile de croiser des fans des Tories en ce moment dans les rues de Woking. Le député sortant Jonathan Lord avait pourtant remporté près de la moitié des voix en 2019. Mais aujourd'hui, les habitants ont envie d'autre chose.
On pense que pour les 5 prochaines années, on a besoin de changement.
Graham a toujours voté pour les conservateurs, mais jeudi, il choisira un bulletin des libéraux-démocrates. Son désamour avec les Tories remonte à loin.
J'étais contre le Brexit, mais les conservateurs se sont uniquement concentrés là-dessus et pas sur comment diriger le pays.
À tel point que même des électeurs de gauche ici sont prêts à voter pour les centristes du Lib Dem pour sortir les Tories. C'est le cas d'Adam et de sa femme Natasha.
La plupart de nos services publics se sont appauvris depuis que les conservateurs sont au pouvoir.
Je pense qu'ils ont tout simplement détruit le pays, à peu près dans tous les secteurs. L'économie, le PIB, tout est pire qu'avant.
Plus de 7 Britanniques sur 10 voudraient un changement à la tête du pays, selon un sondage. Les conservateurs risquent une défaite historique dans les urnes. Julien Chavanne, Woking, RFI.
Et de l'autre côté de l'Atlantique, la campagne pour les présidentielles américaines se poursuit également. Et Joe Biden tente encore de rassurer sur son état de santé. Le président américain met son débat raté face à Donald Trump sur le compte de la fatigue liée à ses déplacements internationaux. Sa vice-présidente Kamala Harris se dit-elle fière d'être la colistière de Biden. Nouveau signal envoyé au camp démocrate que le président sortant ne compte pas se retirer de la course à la Maison-Blanche. RFI, les 4h35 à New Delhi, en Inde, où une tragédie est à la une de l'actualité. Au moins 120 personnes sont mortes lors d'un événement religieux. Les adeptes d'un gourou hindou s'étaient réunis pour une cérémonie dans l'état de l'Uttar Pradesh. C'est au moment de partir qu'une terrible bousculade s'est formée, sans que l'on comprenne encore exactement comment tout a dégénéré. Correspondance à Bangalore, signée comme Bastin.
Baba Bole fait partie de ces prédicateurs autoproclamés qui rassemblent des foules d'Indiens. Il affirme avoir travaillé dans la police avant de recevoir une connexion avec les dieux hindous. Ce mardi, le gourou avait entassé sous une tente des milliers de fans, en majorité des femmes. C'est après son prêche que certains auraient suffoqué sous la chaleur et que l'évacuation a tourné à l'horreur. Les témoins racontent un mouvement de panique le long d'une route surélevée, d'où les pèlerins ont mortellement chuté pendant que d'autres étaient écrasés par la foule. Les terribles images de corps, de femmes et d'enfants font le tour des réseaux sociaux alors que le bilan risque de s'aggraver. Les bousculades liées à la ferveur religieuse sont fréquentes en Inde, mais celle-ci est particulièrement meurtrière. L'événement était connu des autorités qui jugent cependant qu'il a été mal géré et que sa jauge de public n'a pas été respectée. L'urgence est d'évacuer les blessés, au moins 150. Narendra Modi, le Premier ministre, a exprimé ses condoléances et promis un soutien financier aux familles des victimes. Combastin, Bangalore, RFI.
C'est un nouveau coup porté aux défenseurs de l'environnement au Cambodge. 10 militants du mouvement Mother Nature ont été condamnés à 6 ou 8 ans de prison par un tribunal de Phnom Penh pour complot contre le gouvernement et, pour certains d'entre eux, insulte au roi. La société civile dénonce des poursuites sans fondement qui cherchent à museler les voix discordantes. Écoutez Nali Pilorge de la Ligue cambodgienne de défense des droits humains.
Ces condamnations sont scandaleuses. Pour la plupart, ce sont de jeunes gens de 20, 30 ans à peine. Et pendant les audiences, rien n'a montré qu'ils aient commis un crime. La seule chose qu'ils ont faite, c'est travailler pendant plus d'une décennie sur des sujets environnementaux. Certains s'intéressaient à une mine de sel, d'autres essayaient de protéger une île, d'autres encore travaillaient sur les eaux usées et la pollution de nos cours d'eau, notamment à Phnom Penh. Aujourd'hui, au Cambodge, toute critique est interprétée comme une opposition au gouvernement. Qu'il s'agisse de questions de genre, de propriété de la terre, de questions environnementales en général ou bien de l'emploi, il n'y a aucune tolérance pour ce qui, dans les pays développés, est un aspect normal des activités de la société civile. Au Cambodge, ce n'est pas toléré.
Nali Pilorge de la Ligue cambodgienne de défense des droits humains au micro de Lucille Gimbert. Ça va se faire très vite. Le nouveau premier ministre haïtien Garry Conille s'attend à l'arrivée d'un deuxième contingent de la force multinationale d'appui à la police. Déclaration faite en marge d'un déplacement à Washington. Un premier contingent kényan est arrivé en Haïti la semaine dernière. L'ouragan Beryl a fait au moins 4 morts dans les îles Grenadines aux Antilles. Classé catégorie 5 la plus élevée, il charrie des vents à plus de 250 km/h. Beryl se dirige désormais vers la Jamaïque, mais devrait perdre en intensité. Cuba vit un scénario d'économie de guerre. C'est ainsi que la première vice-ministre de l'économie et de la planification a expliqué l'annonce de nouvelles mesures de restriction budgétaire. Objectif, réduire le déficit qui explose et ralentir l'inflation galopante. Les détails avec Myriam Berber.
L'inflation atteint plus de 30%. L'économie s'est contractée de 2% et le peso cubain s'est déprécié de plus de 50% face au dollar. Dans la rue, l'heure est au découragement, les pénuries alimentaires s'enchaînent et les produits de base sont épuisés, sans compter le manque de médicaments et les coupures d'électricité. Dans ce sombre contexte économique, le gouvernement cubain annonce une série de mesures, parmi lesquelles des contrôles des prix des produits alimentaires et une relance de la production agricole. Pour réduire les dépenses publiques, il annonce également une baisse du nombre des fonctionnaires ainsi que des mesures pour lutter contre l'évasion fiscale. Le régime communiste pointe du doigt le renforcement des sanctions américaines comme la cause de toutes ces difficultés. Reste que le tourisme, principale source de devises de Cuba, n'a pas retrouvé ses niveaux d'avant la pandémie de Covid. L'an dernier, l'île a reçu près de 2 millions de visiteurs, alors qu'avant la pandémie, elle en accueillait près de 5 millions.
Myriam Berber, il est une heure passée de 10 minutes ici à Paris, c'est la fin de ce journal. Tout de suite sur RFI, vous avez rendez-vous avec Autour de la question.